France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Haute-Loire est à l'honneur cette semaine. Aujourd'hui, je donne la parole à une artiste singulière, installée dans un théâtre en pleine campagne. Elle a inventé un instrument pour transformer le tissage en musique. Elle se produit sur scène avec un métier à tisser, dont les bruits deviennent de la musique, et elle rend ainsi visible un artisanat ancestral. Mais d'abord, nous passons à table. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Servir des plats faits maison pour un restaurant, c'est la moindre des choses, et pourtant ce n'est pas si fréquent. Mais servir uniquement des produits qui ont été cultivés sur place, c'est assez rare. Et bien voici une ferme auberge qui produit elle-même tout ce qui se retrouve dans les assiettes en bio. Bonjour Marie-Claire Dubois.
Bonjour.
La table de Vaillac, c'est le nom de votre ferme auberge. Vous êtes à Vissac-Autérac, petite commune entre le Puy-en-Velay et Brioude. Vaillac, c'est le nom du hameau qui compte 35 habitants. Alors, vous vous êtes installée il y a une dizaine d'années dans la ferme de vos parents, avec votre mari. Et c'était une reconversion professionnelle pour vous deux, je crois.
C'est ça. On a eu chacun une carrière de notre côté. Moi, j'étais fonctionnaire du ministère de l'Agriculture pendant 18 ans. Et mon mari avait un bureau d'études, après avoir travaillé en industrie, avait un petit bureau d'études de conseil en environnement.
Et du jour au lendemain, donc, une ferme. Quel a été le déclic ?
Alors, ça n'a pas tout à fait été du jour au lendemain. On est venu s'installer à Vaillac, sur la ferme de mes parents, qui est en fait une ferme familiale, avec pour objectif de créer une activité. On ne savait pas trop laquelle, mais le but était vraiment de valoriser notre patrimoine, nos bâtiments et le terroir, parce qu'on est sur un terrain volcanique, on est bien exposé, on a de l'eau à peu près, enfin, à volonté. On pensait que c'était à volonté, même si ça l'est le moins maintenant. Voilà, donc on a réfléchi à beaucoup de solutions et finalement c'est l'auberge paysanne qui nous correspondait le mieux parce qu'il y avait le côté production agricole et cuisine et servir, accueillir les gens à table.
Alors le menu se fait en fonction de la production de la ferme bien sûr, c'est une cuisine qui doit être agile, qui doit savoir s'adapter.
Exactement. On fonctionne complètement différemment des cuisiniers habituellement. Je décide pas mon menu sans avoir fait le tour du potager. Je commence à faire le tour du potager, le tour des congélateurs pour la viande. Et en fonction du nombre de personnes ou de repas ou de plats emportés qu'il y a à produire, et ben, j'adapte le menu pour que ce soit le plus valorisant pour les produits et le meilleur aussi pour les clients.
Est-ce que 100% des ingrédients viennent vraiment de la ferme ?
Alors 100% pas tout à fait, on arrive à produire nous les légumes, les fruits, les aromates, les céréales et les viandes. Par contre les produits laitiers et les huiles, nous les achetons à des producteurs locaux, bio, des voisins qui sont dans un rayon quand même qui est assez proche, de moins de 50 kilomètres.
Et vous faites tout à deux avec votre mari, comment répartissez-vous les rôles ?
Alors, on a une répartition qui est effectivement assez calée. Mon mari s'occupe des animaux en général, donc les volailles, les abeilles, parce qu'on a aussi une trentaine de ruches, les veaux, les cochons, les agneaux. Et moi, de mon côté, je m'occupe du maraîchage. Et ensuite, j'aide aussi sur les abattages des volailles. Et ensuite, à table, eh bien, moi, je cuisine et David fait le service.
Et votre auberge n'est pas ouverte tous les jours, je crois. Pourquoi avez-vous fait ce choix ?
En fait, on est obligé parce que, d'abord parce qu'on est à la campagne, on est dans un coin à circuler, donc il n'y a pas énormément de passages. Donc il faut qu'on fonctionne sur réservation, sinon on attendrait le client longtemps. Et deuxièmement, on a besoin de beaucoup de temps pour produire. On estime qu'on passe plus de la moitié de notre temps à produire vraiment les matières premières qui sont ensuite transformées et servies à table.
C'est un modèle qui est très rare, disons-le, en France. Est-ce que c'est soutenable économiquement ?
Alors économiquement, il a fallu ajuster un peu, effectivement. C'est des choix qui sont assez rares. Tous les stagiaires qu'on reçoit qui ont envie de suivre un peu notre modèle, partent sur des systèmes un peu moins autonomes. Mais nous, il a fallu qu'on aille chercher les aides agricoles. Ça, c'est clair que ça a été une des plus grosses déceptions de notre système. On pensait qu'en valorisant le produit au maximum, c'est-à-dire dans l'assiette, on pourrait s'en sortir économiquement assez facilement. Et en fait, ça nécessite autant de temps de travail que les autres systèmes. Mais ça, donc, on a conclu que c'était vraiment notre système économique qui n'était pas du tout adapté à une production agricole de qualité et à peu près accessible financièrement. Le but, c'est pas de tomber dans des produits de luxe qui soient pas accessibles à la majeure partie de la population.
Donc, vous avez ajusté les prix ?
Voilà, c'est ça. Et ensuite, lorsque vraiment on veut accueillir, on travaille avec un réseau d'associations en termes social pour accueillir des publics peut-être un peu moins facilités au niveau financier, eh ben on fait des tarifs plus accessibles et ils nous donnent un coup de main. Et il y a un côté participatif et collectif qui est agréable aussi dans la cueillette des produits avant de les servir et de les manger, quoi.
Oui, on cueille ses légumes avant de les déguster.
C'est ça, exactement. Comme ça, ça permet de réduire les coûts et enfin, il y a un échange qui est vraiment intéressant, quoi.
Bon, ça reste accessible, hein. Le menu entrée plat dessert est à 27 euros, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Oui. Alors oui, pour quand on vient de la ville, c'est sûr que ça paraît très accessible.
Je vous le fais pas dire.
Mais chez nous, on est déjà dans la gamme un peu au-dessus, quoi. Voilà.
D'ailleurs, quelle est votre clientèle ? C'est pas évident, hein, j'imagine, dans un petit village rural.
Alors, on a une clientèle qui est vraiment très locale, en fait, de Brioude au Puy-en-Velay. On est situé à peu près à mi-chemin entre les deux villes principales de la Haute-Loire. Donc, on a une clientèle très locale, très fidèle, qui sait ce qu'elle vient chercher. Voilà, de ce côté-là, c'est vraiment super. Et ensuite, l'été, on a un peu plus d'activité grâce au tourisme, parce que les gens localement, en fait, nous recommandent. Et les touristes viennent aussi un peu, mais souvent par des recommandations locales.
Il va falloir être prête, hein, l'afflux de clientèle carnet de campagne.
Oui, ça nous fait un peu peur, mais j'espère qu'on saura répondre quand même à la demande.
Qu'est-ce qui vous rend fière, Marie-Claire ?
Je ne sais pas si c'est de la fierté. En tout cas, c'est plutôt de la joie. De la joie d'avoir réussi à monter un projet qui impacte, on pense, pas trop l'environnement, parce qu'on est vraiment à des échelles de travail intéressantes. Et surtout, de pouvoir apporter aux gens des choses bonnes et saines pour leur santé.
Je signale que vous serez à Saint-Germain-la-Prade, tout près du Puy-en-Velay, les 11 et 12 octobre prochains, à l'occasion du festival Récoltez-vous. Vous animez des ateliers cuisine sur ce festival, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Avec l'association Nature et Progrès, on s'investit pour que justement diffuser cette façon de s'alimenter en local et sainement, quoi.
Récoltez-vous, c'est donc à Saint-Germain-la-Prade du 10 au 12 octobre. Et la table de Vaillac, c'est à Vissac-Autérac en Haute-Loire. Merci beaucoup Marie-Claire.
Merci à vous.
Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.
Merci, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Nous voici à Saint-Christophe-d'Allier, petite commune au sud de la Haute-Loire, tout proche de la Lozère, dans un lieu-dit baptisé France. Quand un théâtre a été créé dans une ferme de ce village, c'est tout naturellement qu'il a été baptisé le Théâtre de France. Bonjour Nadine Marchal.
Bonjour Dorothée, merci de m'accueillir.
Vous êtes la créatrice de ce Théâtre de France et vous êtes aussi artiste plasticienne, musicienne et tisserande. On va parler de la façon dont vous faites dialoguer la musique et le tissage. Alors le Théâtre de France est devenu votre atelier aujourd'hui. Est-ce qu'il propose encore des spectacles ?
Oui, occasionnellement, nous proposons encore des spectacles. C'est un tout petit lieu et qui se trouve un petit peu sur une diagonale entre Lyon et Toulouse. Donc, lorsqu'il y a des artistes qui ont besoin de faire une petite halte pour amortir aussi des tournées, eh bien, nous proposons d'ouvrir notre lieu de façon tout à fait comme un lieu de vie. Voilà, donc très intimiste.
Ça n'est pas rien de s'appeler le Théâtre de France.
Non, ce n'est pas rien. D'ailleurs, ça nous a valu aussi parfois de beaux fous rires avec des artistes qui pensaient communiquer avec un grand théâtre quelque part. Et en fait, c'est un tout petit théâtre au milieu de nulle part, mais très chaleureux et qui est là aussi pour faire vivre la culture, un lieu culturel dans un territoire où il n'y a pas forcément tout à proximité.
Parlons de mutissage, Nadine. C'est ainsi que vous avez baptisé un spectacle qui mélange la musique et le tissage, mutissage. D'où vous est venue cette idée d'abord ?
Eh bien, pour moi, c'était important vraiment de donner la voix à la matière. Ça, je l'ai appris au cours de mes nombreux voyages dans plein de pays du monde, puisque j'ai 30 ans de carrière de tissage industriel et j'ai voyagé dans beaucoup de pays. Et donc, j'ai décidé de mélanger deux arts ancestraux qui me sont chers, qui sont la musique et le tissage. Et pour ça, eh bien, j'ai tissé une œuvre très transparente, puisqu'elle est en fil de cuivre, mais on voit au travers, et de placer des micros sur des matières qui sont tissées avec des matières locales. On a la laine du Velay, on a des litros également, de la céramique, enfin divers matériaux, du cuivre. Et ces matières ont des petits micros dessus, et elles vont pouvoir transmettre les vibrations et le son. Et du coup, ben, parler, c'est la matière va raconter aussi ses mémoires et son histoire. Et tout ça, ça se produit sur scène.
Le tissage est un langage, finalement, comme la musique ?
C'est tout à fait un langage universel, tout comme la musique. Et ses vibrations sont assez magiques. C'est plein de poésie.
Alors, on va écouter un petit extrait. Il faut vous imaginer sur scène, à l'intérieur de cet instrument qui est assez imposant. Hein, et tout autour de vous, il y a d'autres musiciens. Écoutons ce que ça donne. Voilà, ce petit bruit de frottement qui revient régulièrement, c'est celui de votre machine à tisser.
Tout à fait, exactement. Et c'est très intéressant ce que vous avez passé comme extrait, parce que ce petit frottement qu'on entend, c'est une navette en bois qui passe dans un petit tunnel tissé de fil de cuivre. Et cette navette en bois, elle vient d'Amérique du Sud.
Là, c'est la lyonnaise qui parle, mais dans le vieux parler lyonnais, il existe une onomatopée pour décrire le bruit des métiers à tisser la soie. C'était le bistanclac-pan. Est-ce que ce son est proche du vôtre, Nadine ?
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ce sont aussi des sons ancestraux, finalement. Parce que le tissage se transmet depuis, ben, je crois, depuis que l'humain a commencé à tisser des petites choses avec du végétal ou de l'animal d'ailleurs. Et ces sons, ils se transmettent. Et le son des soyeux lyonnais est encore vivant aujourd'hui. Et c'est tellement important de transmettre ça aussi au public et à le partager.
Et votre lien avec cet instrument de musique étonnant, c'est aussi une danse. Hein. Vous êtes à l'intérieur de cette espèce de machine et vous dansez.
Tout à fait, parce que là, je vais parler aussi de mon mari, c'est super important, qui est compositeur et guitariste. Et pour nous deux, vraiment, depuis des années, ce qui nous guide, c'est le rythme. Et c'est vrai que sur scène, c'est une danse. Je danse avec cette machine, je danse aussi, il y a des micros sous mes pieds qui apportent encore d'autres vibrations. Et c'est vrai que cette danse, elle est un petit peu comme une transe parfois même.
Est-ce que c'est une manière aussi pour vous de transmettre un patrimoine local, un savoir-faire, un artisanat local de manière différente ?
Ah oui, complètement. Parce que si on parle d'artisanat local, par exemple, tout ce qui constitue les structures métissage et mutissage qui est sur scène également, cette coupole un peu art déco en cuivre, etc., eh bien tout ça, c'est conçu avec mon plombier qui habite juste à côté, qui est devenu un ami. Et c'est incroyable cette harmonie qu'il a pu aussi générer entre le tissage, les structures et aussi la musique, parce que tout ça, ça fait qu'un.
C'est un plombier artiste, désormais.
Exactement, il s'appelle Pascal Bouge, il est extraordinaire, je l'adore.
Et on trouvera sur notre site internet toutes vos dates de prochains concerts avec ce projet Mutissage. Merci beaucoup Nadine Marchal, plasticienne, tisserande, musicienne et créatrice du Théâtre de France à Saint-Christophe-d'Allier en Haute-Loire. Bonne journée à vous.
Merci Dorothée et merci. Merci encore. Au revoir.